Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à Afen & Co, Afen & Co, la collégiale de la FEN. On en est au numéro 400. Numéro 400, et ce numéro est un numéro un peu de synthèse. On voulait aborder un sujet qu'on aborde partout. Il y a le World AI Cannes Festival, je crois, qui vient juste de se terminer. Bien sûr, ce qui était à l'ordre du jour, bien, c'était l'IA. L'IA qui va tout changer, qui va tout révolutionner, le Big Bang de la formation. Tout le monde en parle. Est-ce qu'il s'agit de se faire plaisir en disant il y a une nouveauté, en disant c'est à la mode, donc tout le monde doit en parler? On repeint tout aux couleurs de l'IA? Ou est-ce qu'il y a vraiment des transformations profondes qui vont se faire rapidement, très rapidement, ou qui vont s'inscrire dans le temps? Qu'est-ce que ça veut dire? Et pour ça, il faut trouver quelqu'un qui soit à la fois indépendant, que les auditeurs aiment bien, suivent, qui est venu plusieurs fois, tout au début, quand il y avait peu de gens qui s'inscrivaient parce qu'on lançait l'expérience. Et donc, c'est un ami de la FEN, François Gueuze. Bonjour François.
Bonjour Stéphane.
Et donc
Plaisir de te voir.
j'invite tout le monde à suivre François dans ce qu'il écrit parce que il dit des choses. Voilà, c'est-à-dire qu'au lieu de faire du politiquement correct, de la langue de bois, bah, il prend des positions. Et donc j'invite, on verra à la fin sur tous les médias qu'il utilise, mais de le suivre parce que c'est intéressant, même si on n'est pas d'accord, et surtout si on n'est pas d'accord, parce que c'est argumenté. Et c'est ça qui est chouette. Donc on voulait parler de l'IA. Alors avant de parler de l'IA, tout le monde se dit spécialiste de l'IA depuis ChatGPT. Toi, comme disent les marxistes, d'où tu parles?
D'une petite ville du nord de la France qui s'appelle
Très bien.
Lerps. Non, allez, plus sérieusement.
À côté de Lille, hein, parce que voilà.
Oui, il y a la frontière belge
Ah,
avec
très
mon
bien.
nom, ça est normal une fois.
Très bien.
Bien.
Bel accent.
Non, plus sérieusement, d'où je parle? En fait, l'intelligence artificielle, ce qu'on appelle l'IA, et pour moi, une vieille copine. C'est une vieille
D'accord.
copine parce que globalement, au siècle passé, alors que j'étais encore jeune et beau, étudiant, j'ai passé une maîtrise d'informatique fondamentale, option, base de données et intelligence artificielle.
D'accord.
Sous-entendu, j'ai développé certaines connaissances, je dirais compétences aussi, hein, en faisant bien la différence entre les deux, concernant l'IA. Et ceci depuis 1988. Alors, c'était un autre temps, c'était d'autres outils, c'était d'autres approches de l'IA. C'était un moment où on parlait de Prolog, de Lisp, des choses comme ça, des choses plus personne ne connaît quasiment, à part les dinosaures de mon style. Et j'ai connu une glaciation de l'IA. Ce qu'on appelle une glaciation, c'est quoi? C'est globalement, l'IA, il y a eu un engouement dans les années, à la fin des années 80, puis rien. Et rien, parce que c'est retombé, etc. Mais il n'empêche qu'à l'époque, nous avions, en tant qu'étudiants et avec nos enseignants-chercheurs, on avait travaillé sur de très très beaux modèles d'IA, hein, d'une certaine façon, que l'on faisait tourner sur papier parce qu'on n'avait pas les ordinateurs pour les faire tourner.
D'accord.
C'est...
Et donc, le printemps de l'IA, pour toi, c'est revenu quand après l'hiver?
Oh, bah, ça date d'il y a peu de temps, hein, d'une certaine façon, ou d'une certaine manière. On a, même si on continue d'utiliser des techniques somme toute relativement similaires, mais nous avons des ordinateurs beaucoup plus puissants,
Ouais.
des capacités de stockage de données beaucoup plus puissantes, et ça a commencé à démarrer. Ça a commencé à redémarrer, mais il faut pas se faire d'illusions. Hein. L'IA a connu plusieurs. J'ai utilisé le terme de glaciation comme certains spécialistes de l'IA. La première fois que le terme est utilisé, c'est dans les années 50, hein, c'est 55, à la conférence de Dartmouth. Et ça avance généralement
Et
bien par à-coups.
bien sûr, et tu dirais que ChatGPT était un moment de bascule? en 2020.
C'est une nouvelle forme d'IA. C'est une nouvelle forme d'IA. C'est ce qu'on appelle maintenant une IA générative. Alors maintenant, si tu veux faire in, tu vas parler d'agentique, des choses comme ça. Mais il n'empêche que, qu'est-ce que l'IA? On a deux types d'IA, hein. Une IA qui est symbolique et une IA qui est statistique. Aujourd'hui, ce que l'on voit se développer, c'est ce qu'on appelle l'IA statistique. En fait, l'IA, c'est très con.
Oui,
C'est pas intelligent du tout. L'IA, c'est une capacité d'analyse statistique de tout un ensemble de situations, y compris quand vous leur faites analyser un texte. Nous
ben oui.
sommes avec tout un ensemble de modèles qui identifient les probabilités de telle et telle chose. Donc, si vous voulez faire de l'IA, faites de l'informatique, mais surtout des mathématiques. Parce que, d'une certaine façon, les mathématiques sont au cœur du fonctionnement de l'IA.
Bien sûr.
C'est
Mais
ça.
tu dirais pas que avec ChatGPT, c'est la démocratisation, c'est les usages qui apparaissent.
Ah,
Il y avait toujours des geeks, bien sûr, avant, mais c'est là où ça prend une autre dimension. Et aujourd'hui, je ne sais pas si tu avais vu le baromètre qui vient de sortir sur l'IA, près d'un Français sur deux utilise l'IA ou a utilisé l'IA.
oui, bah.
ChatGPT principalement.
Oui, c'est vrai qu'il y a une nouvelle forme d'IA qui est apparue. C'est cette IA, entre guillemets, générative, qui, sur la base, en fait, de plusieurs techniques liées à l'IA, liées à la reconnaissance, que ce soit de la parole ou de l'écrit, pour identifier les questions, si tu veux, sur la base du traitement de données et sur la base de la restitution. Donc là, on est encore une fois dans du traitement du langage. Donc en fait, on a du traitement du langage, du traitement statistique,
De l'image aussi, peut-être.
hein, de
De
l'image,
l'image.
bien sûr, de l'image, mais aussi de l'utilisation, l'image, mais les robots.
Oui,
D'une
absolument.
certaine façon, la capacité à se déplacer dans un univers autre dimension. Hein, voilà, quatre si on rajoute le temps. Mais là-dessus, on voit qu'on arrive d'une certaine façon à collecter en un seul et même lieu des technologies de type IA. Est-ce que c'est l'alpha et l'oméga de l'IA? Je ne sais pas. Parce que l'IA générative, je pense que comme bon nombre de tes auditeurs, on a tous entendu et on a tous constaté les fantômes qu'elle génère, les erreurs. D'une certaine façon, ces IA génératives, type ChatGPT, vont chercher des données un peu partout dans le web. Le traitement et la confidentialité de ces données, je jetterai un voile pudique là-dessus. Eh bien, globalement, elle prend tout et n'importe quoi, elle ne se pose pas de problèmes moraux, éthiques, etc. Et c'est écrit, donc ça doit être vrai. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça qu'il y a là derrière, et c'est ce qui explique qu'on a des fantômes ou des choses complètement délirantes qui parfois sont proposées par l'IA.
Oui, mais quand on voit sur les usages, on s'aperçoit que finalement, c'est vrai qu'il y a des hallucinations, moins qu'au début, donc on progresse aussi. Mais ça veut dire aussi que derrière, bah, c'est vachement pratique. Tu as un rapport à lire, bah, il te fait la synthèse, tu as 2 heures de vidéo, il te la fait la synthèse en 5 minutes.
Bien sûr, mais ça sous-entend que, et c'est, on pourrait longuement parler de l'IA, mais le point le plus important, le plus essentiel à mon sens, c'est sur quoi on va la faire tourner. Quelle est la qualité des données, quelle est la qualité d'information qui sert à nourrir cette IA? Et on voit apparaître quand même dans les versions généralement payantes, hein, des outils d'IA générative, bah, le fait de pouvoir travailler uniquement sur tes données, uniquement sur les textes que tu as sélectionnés, ceux sur lesquels tu as affiché un certain niveau de confiance. Et c'est ça qui est important. Entre guillemets, l'IA ne vaut rien si tu l'as. Entre guillemets, excusez-moi de la vulgarité du propos, tu nourris l'IA avec de la merde, elle sortira de la merde. Voilà. Ça va pas plus loin que ça. C'est un truc évident. Hein. Rappelez-vous cette histoire où, il y a quelques années, une IA était devenue nazie
Oui.
en quelques heures, simplement parce que bah, on l'avait nourrie avec Mein Kampf, avec toutes les débilités possibles de cette époque-là.
Non, c'était même mieux parce qu'en fait, c'était Microsoft qui avait lancé ça, et c'était mieux parce qu'en fait, on ne l'avait pas nourri. Et on lui avait
Non, mais
dit.
ils avaient été nourris aussi par des internautes qui l'utilisaient,
Exactement.
etc. Sous-entendu.
Il s'adaptait et c'est devenu une star. En l'espace de 24 heures, c'était un influenceur. Donc il a compris la mécanique.
Mais
Tu utilises quelle IA, toi? Parce qu'il y en a qui préfèrent.
Perplexity. Moi, j'utilise
Perplexity, d'accord.
préférentiellement Perplexity. Pourquoi? Parce que et Perplexity donne une liste véritablement exhaustive des sources qui lui a servi à proposer et à générer ces textes. Ça me permet de valider ou d'invalider plus facilement, vous voyez. Ça, c'est un point important. Il faut faire très très attention. Moi, c'est véritablement celui que j'aime bien, et pas nécessairement plus puissant que les autres, hein. Mais ce qui pour moi importe, c'est la qualité de la source et la qualité des informations qui seront utilisées. Donc Perplexity, pour un système LLM classique. Après, j'utilise des choses comme Gamma ou Notebook LM, hein, pour des très honnêtement, hein, plus pour des mises en forme, pour des synthèses sur la base de certains documents très précis. Voilà, parce que ils vont pas dans ce que j'ai, ils vont pas chercher ailleurs et ils se posent pas de questions. Mais ils font une bonne lecture de ce que je leur fournis généralement. Parfois, ils font des petits raccourcis qui vont moins bien, notamment quand on leur demande de nous faire une infographie ou des choses comme ça. Personnellement, je n'aurais pas fait comme ça. Personnellement, il y a parfois des petites incompréhensions, mais ça s'améliore à chaque fois. Et puis, très honnêtement, c'est très pratique parce que ça permet d'aller très très vite.
Ouais.
Et sous-entendu, de se focaliser véritablement. C'est ça qui aussi est important. De se focaliser sur ce que l'on va faire derrière. Parce que tu me connais suffisamment, Stéphane. J'ai une certaine vision de l'IA, mais ça vient de mon côté diplodocus et de vieux machin de l'IA. J'ai été assez surpris, soyons honnêtes, quand j'ai vu arriver les outils type ChatGPT. Alors, comme tout le monde, hein,
Bien sûr.
soyons honnêtes, j'ai été bluffé parce que moi.
Même Sam Altman a dit qu'il ne pensait pas que ça marcherait quand il a lancé. C'était fait pour lever des fonds.
Voilà, et très honnêtement, j'ai été bluffé parce que moi, je me rappelais à ce que je faisais il y a, mon Dieu, maintenant plus de 30 ans. Voilà, et je me suis dit, waouh, enfin, on y est arrivé. Merde, j'étais 30 ans trop tôt.
Bah ouais, c'est ça.
Voilà, et j'ai vraiment été bluffé. Par ces outils. Et très rapidement, j'ai vu l'usage
Ouais, très
que
bien.
les gens en faisaient. Et l'usage, je ne vais pas dire m'a déçu, mais pas loin. Les premiers usages de ces outils, hein, rappelons-nous, dans le monde bancaire, où on a créé des conseillers virtuels, des choses comme ça qui vous
Oui.
répondent. OK. Bon, est-ce que ça a véritablement changé le métier? Je suis pas sûr. Est-ce qu'on a ça a permis de faire des coûts, des réductions de coûts? Je suis pas sûr non plus. Et je me suis fait une réflexion à l'époque. Cette réflexion, c'était l'informatique que j'ai connue dans mon jeune temps, hein, quand j'ai commencé à travailler et que j'étais à la fois chef de projet, que je développais des applications, des choses comme ça, avant que je ne bifurque dans les ressources humaines, Dieu merci. L'informatique, c'était quoi à l'époque? En gros, et de manière caricaturale, alors attention, faut bien m'entendre, hein, tu l'as dit tout à l'heure, je suis de temps en temps un peu entier, j'aime bien faire certaines caricatures, mais c'est pas neutre. L'informatique, au départ, c'était faire plus de la même chose avec moins.
Oui.
Sous-entendu, on était dans une logique d'industrialisation de tout un ensemble de processus administratifs. L'informatique, c'était pour gagner en rapidité, en coût, hein, également, etc. Et les gens commençaient à vouloir utiliser ces outils d'IA avec la même logique. Faire plus avec moins. Mais en fait, ce n'est pas ça l'IA. L'IA, quand on regarde bien, c'est éventuellement faire autre chose différemment.
Et ouais, c'est ça.
C'est ouvrir des portes. C'est, d'une certaine façon, se donner la possibilité de choses que l'on n'avait pas imaginées, qu'on n'avait pas vues. Pourquoi je dis ça? Parce que, globalement, est-ce que, Stéphane, tu te rappelles encore comment on fait une droite de régression linéaire?
Oui,
Bon.
absolument. J'en avais fait pour ma thèse, absolument.
Voilà. Statistique basique, t'es d'accord? Et ça permet de vérifier si deux variables, hein, pour une droite de régression, deux variables, si ces variables sont corrélées, s'il y a des, entre guillemets, des possibilités d'identifier des corrélations. Alors, attention entre la corrélation et le comment
Le lien de causalité.
et la causalité, c'est pas nécessairement la même chose. Sinon, je conseillerais aux dames qui nous écoutent d'être des blondes à moustache, parce que c'est deux critères qui conditionnent les augmentations de salaire.
Ah, très bien.
Bon,
Non, parce que
c'est
c'est vrai que le...
différentes choses.
Très
C'est
bien. On voit les ressources humaines qui reviennent.
ridicule. Il
Oui,
y a une
tout à fait.
corrélation dans le. Mais on voit bien que ça ne veut rien dire.
Ah oui.
Et d'une certaine manière, on a ces conditions de corrélation qui sont là. Mais déjà, bon nombre de personnes ont du mal à identifier qu'il y a une corrélation entre deux variables différentes. Le temps de travail, la rémunération, enfin. J'en passais les meilleurs.
Est-ce que ce n'est pas le rôle des ressources humaines que de créer des standards, des institutions, ce qui évite aux gens à la base de se poser toutes ces questions, où vu ce qu'ils sont payés, ils ne vont pas réinventer toute l'entreprise, quoi. Et que finalement, quand on parle de l'IA, c'est qu'en fait, les institutions ne savent pas quoi en faire. ChatGPT, c'est un peu plus de 3 ans.
Ben, je n'irai pas encore jusque-là, si tu permets. Je reprendrai ta question un peu plus tard, Stéphane.
J'en prie.
Mais d'une certaine façon, identifier une corrélation en XY avec deux variables, bon, généralement ça va assez bien. Vous prenez une feuille de papier, vous mettez l'axe des X, l'axe des Y, vous mettez les points, puis vous regardez, puis vous dites, ah oh, ben ça semble être bien aligné. Même pas besoin de formule de calcul, hein, on est d'accord. Hein,
Exactement.
il suffit simplement de regarder avec une règle, ah ben tiens, ça marche, ça doit être corrélé. OK. Mais la seule chose, c'est que les corrélations à deux variables, ça va. Mais quand on essaie d'analyser en profondeur une situation, ce n'est pas deux, trois, mais c'est parfois jusqu'à 20 variables combinées dont on vérifie ce que la chose-là doit être corrélée. Je suis désolé.
Non, et c'est tout l'intérêt. On sait très bien que plus on augmente les variables à l'intérieur, plus les résultats sont. En fait, plus ce que tu veux démontrer, tu le démontres. Donc, ce qui veut dire que, parce qu'on ne sait pas bien expliquer les choses, donc plus on en met, moins on dit des choses. Et plus on met des choses simples avec trois variables, deux variables ou une, bah, plus on a des raisonnements qui permettent une prédictibilité plus forte, mais après qui finalement s'éloignent de la réalité, quoi.
Oui, mais la seule chose, c'est que moi, parfois, j'ai identifié un niveau de satisfaction ou d'ambiance au travail, etc., mais qui repose sur 20 variables différentes. Ce qui nous permet d'identifier des personas. Et sous-entendu, ça nous permet d'identifier des modalités, des politiques RH beaucoup plus adaptées. Tu vois ce que je veux dire?
Oui.
En fait, cette logique-là, elle nous permet de cibler véritablement des situations très précises. J'aime bien, parce que je l'ai souvent fait sur ce type de données, le faire sur des données d'absentéisme. Quels sont les facteurs explicatifs de l'absentéisme? Bon, alors, tu vas me sortir l'âge, tu vas me sortir éventuellement certains métiers, etc. Mais après, qu'est-ce que tu fais? Ah, bah, après, bah, je vais mettre en place des entretiens de réaccueil et puis je vais faire du contrôle. Ah, bah, bravo. C'était même pas
Et
besoin
c'est tout
pas besoin
l'intérêt
de l'analyse.
tes personas, c'est parce que si tu as créé, c'est presque le jumeau numérique, si tu as créé tes personnages qui représentent ton environnement, bah, tu peux dire j'ai une solution. Est-ce que si je leur propose une sanction, peu importe les solutions que tu proposes, bah, finalement tu as les réactions et tu peux à chaud voire rebondir en te disant est-ce que c'est bien perçu alors que tu n'as rien proposé pour l'instant, puisque tout ça est du domaine du numérique.
Bien sûr. Et là, en fait, on touche à des outils, tu es d'accord avec moi, qui sont allés lo assez loin des LLM type ChatGPT, Perplexity, etc. On est sur le fait de faire parler la donnée, de l'analyser en profondeur, d'identifier les différents éléments. Et tout ceci nous amène à développer ce qu'on appellerait l'analytique RH. L'analytique RH, c'est quoi? En fait, on en a plusieurs niveaux. On a un niveau de la stat descriptive, d'accord? Explicative. J'explique pas ce que je dis là, hein, vous êtes d'accord? Puis après, il y a le prédictif. Ça a bougé comme ça ces dernières années, ça va évoluer comme ça dans les années suivantes. Et puis, le dernier point, c'est le prescriptif. Qu'est-ce que je dois faire si je veux avoir moins 5% d'absentéisme? Qu'est-ce que je dois faire si je veux améliorer l'utilisation de mon budget formation? Qu'est-ce que je dois faire pour, si je veux? Et là, c'est là que l'IA est extrêmement intéressante. Parce que tout d'abord, elle va te permettre d'identifier les variables significatives, c'est-à-dire celles sur lesquelles tu dois pouvoir travailler, celles sur lesquelles on va réfléchir et sur lesquelles on va pouvoir proposer des plans d'action. Et éventuellement, tu parlais de jumeaux numériques, la possibilité de voir quel peut être l'impact, etc. Quoique cette dernière vision de quel est l'impact est assez difficile.
Mais que de toute façon, aujourd'hui, même l'impact des RH est toujours difficile à calculer, même aujourd'hui. Donc,
Bien sûr. Bien sûr, bien sûr.
oui, justement, alors quand on parle de cette capacité Aujourd'hui, l'IA nous permet de calculer ce que ça peut faire comme impact, l'impact écologique, l'impact humain, etc. Et donc, ça permet d'avoir une visibilité sur des projets, non?
Bien sûr. Et je vais même te dire, c'est quelque chose qui parfois apparaît du monde de la science-fiction dans notre univers. Je suis capable de te calculer le retour sur investissement d'une opération de formation. C'est ça. Imagine, j'ai toutes les deux. Je suis dans une grande entreprise de distribution. J'ai tout un ensemble d'informations sur l'activité, sur les ventes, sur la concurrence, puisque ce n'est pas un jeu où on est tout seul, hein,
Bien sûr.
etc. Et j'ai la possibilité de voir si le fait d'envoyer tel chef de rayon en formation plutôt que tel autre a un impact sur les ventes du rayon en question. Sous-entendu, j'identifie tout un ensemble d'éléments financiers liés à la mise en place de la formation professionnelle.
Et
Voilà.
est-ce que c'est pas ça qui fait peur? C'est-à-dire qu'on a un environnement qu'on connaît, alors on peut le critiquer, mais en tout cas, il est connu, tout le monde s'y retrouve, et finalement, on est dans la science-fiction, si on dit demain, ça sera différemment, mais finalement, pourquoi est-ce qu'on aurait confiance dans l'autre système qu'on ne connaît pas, alors que celui qu'on connaît aujourd'hui, ben, on est plutôt à l'aise?
Je suis un éternel optimiste, me diras-tu.
Très bien.
Pour moi, un, la peur n'évite pas le danger.
Oui, exactement.
D'accord? Ça, c'est un premier point. Et si tu ne vas pas toi-même, d'autres iront pour toi. OK? Ils ne seront peut-être pas nécessairement habités des mêmes principes moraux, réglementaires et déontologiques que toi. Sous-entendu, je pense que nous avons intérêt, nous aussi, à apprendre à utiliser ce genre de choses, à se dire, OK, pour le moment, je continue à travailler classiquement, mais je vais tester ce genre de choses et je vais regarder ce que cela me propose, ce que cela, qu'est-ce que je pourrais en faire? Et sous-entendu, qu'est-ce que j'accepte et qu'est-ce que je rejette? Sous-entendu, il y a des points qui sont importants à avoir en tête. Je ne dis pas que c'est l'alpha et l'oméga, je dis simplement que nous avons à utiliser au mieux ces nouveaux outils, ces nouvelles formes d'algorithmes pour enrichir notre travail, hein, c'est un humain augmenté, voilà.
Absolument.
Hein, c'est comment, alors, pas financièrement, hein, faut pas trop pousser quand même, j'ai été DRH,
Bien sûr. Faut
mais
optimiser.
c'est un humain augmenté, ça te permet de voir des liaisons, des possibilités que tu ne voyais pas directement. Quand tu as la responsabilité des ressources humaines, de la formation, de la gestion des carrières, d'une petite boutique où tu as 10 000 personnes, que tu regardes les schémas d'évolution de carrière de chacune de ces personnes, comment fais-tu pour identifier véritablement les chemins professionnels, les parcours qui sont bien efficace pour tenir de nouveaux postes. Parfois, ce n'est pas ceux qui apparaissent les plus évidents.
Bien sûr, hein.
Hein? Je me rappelle une discussion avec une entreprise qui cherchait à recruter des magasiniers. Voilà. Et puis, en fait, on s'est aperçu que ceux qui étaient les plus performants, n'ayons pas peur des termes, dans leur poste de travail, ce n'étaient pas des gens qui avaient été formés à être magasiniers,
Ah ouais.
mais c'était des gens, en l'occurrence, d'anciens sous-mariniers, parce qu'ils vivaient
D'accord.
dans un sous-marin, il faut mettre tous les éléments à la bonne place, bien rangé, dans un espace extrêmement restreint, etc. Il y avait tout un ensemble de choses qui s'expliquaient d'une certaine façon. Mais il a fallu s'en apercevoir. Et trop souvent, nous sommes confrontés, notamment en RH, hein, je pense que tout le monde sera d'accord, à une masse d'informations et nous avons beaucoup de difficultés à voir les patterns, vous m'excuserez d'utiliser ce terme-là, hein, mais les patterns qui s'en dégagent pour être véritablement efficaces. Et à la fois pour être efficaces, et puis aussi pour ouvrir des portes à certains de nos collaborateurs.
Mais est-ce que
Et
justement, quand tu parles des collaborateurs, est-ce qu'il n'y a pas aussi un élément qu'on retrouve souvent dans les cadres? Alors bien sûr, eux se forment à l'IA pour ne pas être dépassés, parce que tout le monde est d'accord pour dire qu'il faudra y aller, donc il faut connaître. Mais l'idée, c'est se dire, si mes collaborateurs maîtrisent l'IA, bah finalement, ils vont me challenger, donc ils vont récupérer du pouvoir, ils vont être capables d'analyser tout seul avec un LLM, hein, tout simplement, ce qu'on voit déjà. Et donc, ça veut dire que s'ils sont un peu taquins, ben, ils vont me taquiner. Et donc, c'est leur donner le pouvoir, c'est un peu le désorganiser l'entreprise qui tient bien comme ça.
Si tu es cadre et que tu as cette réflexion-là, c'est que tu n'as pas à être cadre.
Oui, mais dans
T'es un
certaines
mauvais.
administrations, oui, absolument. Oui.
T'es un mauvais. Je suis désolé. Je suis brutal en disant ça.
Ou c'est mauvais, ou c'est la culture de la boîte qui dit
Oui.
pas de vagues.
Oui. Oui. Pas de vague et le petit
Comme
doigt sur
d'hab.
la. Hein, et c'est la mauvaise représentation du cadre et de la relation hiérarchique.
Absolument.
Mais je
Et
pense
donc.
que quelqu'un qui se retrouve en situation d'encadrement, qui est confronté à cela, ben, moi
Et
je.
alors, co comment tu fais quand tu te dis, bon, tu as des collaborateurs qui sont, c'est ergonomique, tout le monde peut rentrer facilement avec l'IA, il y a plein d'outils, on peut gagner du temps, on peut gagner de l'efficacité, il y a plein de choses intéressantes. Comment tu fais pour faire ta politique de transformation?
J'ai vu peu de politiques de transformation jusqu'à présent, très honnêtement. L'IA, elle est rentrée par la fenêtre.
Oui, exactement.
Elle n'est pas rentrée par la porte. Ça, c'est un point. La politique de transformation, elle repose aussi sur la nécessité de se former à l'IA. De se former. Alors attention, je ne parle pas de formation telle que ce que moi j'ai connu ou ce que les informaticiens connaissent, mais à l'usage, à la protection des données, à tout un ensemble de prise de recul, prise de distance vis-à-vis de ce que cela peut, d'une certaine façon, générer. Je pense que la nécessité, elle est là. Et ensuite, après, bah, nos collaborateurs utilisent généralement des outils type LLM. Il faut les former à l'utilisation du prompt.
Oui, absolument.
Hein? Savoir formuler une bonne question. Ça, c'est le point important. Et l'une des vraies questions aussi, c'est comment on le nourrit. Ce LLM. Quelle structure de données et quelles données on lui confie? Comment on garantit la sécurité, le non-partage de celle-ci, etc., etc. Bien entendu, il y en a beaucoup d'entreprises qui commencent à rentrer et à, d'une certaine façon, essayer d'encadrer l'IA. Il est temps. Voilà, parce
Bien
que.
sûr. Et ça, c'est le rôle de l'entreprise que de créer ce commun en disant il y a des règles, etc. Mais même sur les usages, si on reste sur de la formation, on s'aperçoit que un LLM peut très bien être un co-animateur, donc dans l'animation, mais il peut très bien me permettre de créer des parcours pédagogiques complètement. Donc toutes les étapes avec des icebreaking, tous les éléments qui sont importants. Finalement, les boîtes qui avaient l'habitude de dire il y a des pédagogues d'un côté, des animateurs de l'autre, des managers, etc. Ben finalement, ça réinterroge tout. Donc ça met à plat l'organisation comme elle est. Et
Bien
comme on a des
sûr.
gens, on ne sait pas quoi en faire. Ben souvent on se dit ben comme d'hab.
Voilà. Rappelle-toi cette étude des acteurs de la compétence, hein, il y a ça quelques années, qui expliquait et qui montrait que l'univers de la formation professionnelle rentrait dans une logique véritablement de parcellisation, avec des outils pour faire les quiz, des outils pour faire enfin, 25 000 trucs différents. L'IA commence à synthétiser tout ça. Hein? Tu me demandais tout à l'heure quel type d'outils j'utilise. J'utilise Notebook LM. Tu regardes bien, Notebook LM, ça te fait la carte mentale, ça te génère des quiz, des fiches pour des jeux, etc. Ça te génère les slides, etc. Si tu l'alimentes bien, ça fait des choses qui sont de très bonne qualité. Voilà.
Exactement. C'est toi qui choisis l'alimentation, parce que tu choisis
Bien
les
sûr.
sources.
Tout à fait. Hein, et ça va être, je pense aussi, dans les années à venir, une refonte profonde. Des métiers de responsable de formation, de pédagogue. Hein, et je vais dire d'enseignant. Je fais la différence entre les deux parce que l'enseignant va donner une note à la fin. J'ai jamais trouvé
Exactement.
pourquoi, mais c'est pas grave.
Oui, mais est-ce que ça ne veut pas dire que c'est la fin, par exemple, des enseignants? Quand tu mets un chat GPT, tu donnes tous les documents qui vont bien. Finalement, 24 heures sur 24, il peut te challenger, il peut t'apprendre plein de choses, plus qu'un enseignant, finalement. Et c'est ça aussi une peur qu'on a avec les gens. Est-ce que leur métier n'a pas vocation à disparaître?
Je ne pense pas qu'il aura vocation à disparaître, mais j'y reviendrai. Je prends un autre point. On parlait de Notebook LM, etc. La production de tout un corpus nécessaire à l'animation d'une session de formation, parce qu'il y a ça avec ça.
Bien sûr.
Moi, en tant qu'enseignant à l'université, je me suis livré avec une de mes étudiantes à côté de moi. Je me suis livré à un petit exercice. J'ai repris l'ensemble des travaux qu'ont fait les étudiants dans le cadre de leur évaluation.
D'accord.
C'était que des fichiers informatiques, hein, bien sûr. Et j'ai repris ces 25 fichiers. J'ai demandé, en l'occurrence à Perplexity, de me hiérarchiser ces fichiers, de leur donner une note sur 20 avec un barème, 8 points sur la qualité de l'analyse, etc., 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 hein, et de me donner en même temps 3 lignes de résumé de pourquoi la note avait été celle-là. Il m'a sorti, bien entendu, il m'a sorti l'analyse des 25 fichiers. Et avec l'étudiante en question, on a regardé l'évaluation que moi j'avais faite,
Bien sûr.
où je m'étais passé, où il avait passé des heures à regarder. C'était le même ordre.
Ah oui.
C'était le même ordre. Alors, vous pouvez peut-être me dire, bon, en fait, t'es pas plus malin qu'une machine. Ok, je veux bien
Ouais.
l'entendre.
Bah
Mais
oui, tu mets plus de temps.
voilà, un, c'était le même ordre. Deux, la seule différence, c'est que le rapport où l'IA mettait 18, moi j'avais mis 17, voilà. Et le rapport. Où l'IA avait mis 12, 11,5, moi j'avais mis 13. Mes notes étaient plus resserrées, mais l'ordre était le même. Et là, avec l'étudiante, elle m'a regardé, mais elle m'a dit, mais ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire certainement aussi qu'on va avoir la nécessité, avec ces outils, de penser de nouvelles approches pédagogiques, de nouvelles approches d'évaluation, etc. Parce que, en sous-entendu, notre rôle en tant qu'être humain, va être particulièrement challengé. Voilà.
Parce que là, tu montres que toi, tu peux, en paramétrant la machine, avoir un résultat qui est plus rapide à faire. Mais si on tire un peu le fil, bah, l'apprenant n'a plus besoin de toi. Il suffit qu'il ait accès à la
Bien
machine
sûr.
pour s'auto-évaluer. Et donc, finalement, il gagne en autonomie en se disant, bah, là, je suis nul, par exemple. Et donc, il demande à la machine, quelle proposition tu me fais pour qu'on puisse travailler ensemble pour ces points d'amélioration?
Voilà. Alors moi, avec certains étudiants de master, hein, je les fais travailler sur des questions où je leur dis au départ, vous travaillez avec ChatGPT ou Perplexity ou Claude ou peu importe. Vous prenez celui que vous voulez, je m'en fous. Vous récupérez les éléments, vous le corrigez. Cette correction, vous la refaites évaluer par l'outil. Vous prenez ou vous prenez pas. Et vous refaites une correction derrière. Et en fait, on va avoir la nécessité de voir d'une certaine façon, de mobiliser notre intelligence sur des processus de raffinage. Tu vois ce que je veux dire? C'est. Je vais récupérer tout un ensemble d'informations, je vais en prendre, en sélectionner certains, en rejeter d'autres parce que ça me paraît insuffisamment sourcé, insuffisamment qualifié, etc. Et je vais rentrer dans une logique de raffinage au fur et à mesure pour que, d'une certaine façon, l'outil et que ce qui soit produit ne soit plus la production de l'outil, mais soit la production de l'outil par l'homme. Tu
Mais
vois ce que je veux dire?
exact. Mais est-ce que, parce que là, derrière, il y a des critiques là-dessus. On se dit, parce que si je supervise tout, en contrôlant, etc., en lisant en diagonale, en comprenant les éléments, donc je gagne du temps pour en faire ce que je veux, hein, professionnellement ou pas. Donc ça, c'est une chose. Mais ça veut dire aussi que je ne fais plus rien. C'est-à-dire, c'est la machine qui fait de plus en plus. Et quand on voit Crawford, par exemple.
Sauf que là, je mets l'étudiant et je lui demande de réfléchir à ce qui a été produit. C'est le développement d'un esprit critique qui est nécessaire. C'est
Oui,
ça.
mais justement, avec les agents qui sont de plus en plus nombreux, qui se développent, etc., on dit que 2026 serait l'année de l'agentique. C'est eux qui font ce que je leur dis de faire. Et ils vont chercher. Voilà. Et donc, ça veut dire que moi, j'en fais de moins en moins. Je suis de plus en plus un cerveau qui supervise. Et donc, je perds le sens de ce que je fais. Ou l'éloge du carburateur, on dit en travaillant réellement sur des choses, on retrouve le sens de la tâche.
Bien sûr.
Est-ce que finalement, on n'en fait pas des gens qui vont être de plus en plus mal dans leur peau?
Ben, est-ce qu'on n'est pas en train de créer la connerie, l'intelligence artificielle, est-ce qu'elle ne crée pas la connerie réelle?
Ouais, c'est ça. Ouais.
Mais on deviendra ce que nous en faisons. C'est pas une problématique d'outils, c'est une problématique d'usage et d'intelligence de l'usage. Voilà. C'est ça qui est
Et c'est
important.
pour ça que c'est intéressant, je suis complètement d'accord avec toi sur le fait qu'il faut le penser, il faut y réfléchir et faire social avec ça.
Et on en revient à quelque chose qui pour moi est essentiel, que l'on a un peu malmené ces dernières années, trop malmené, je dirais, ces dernières années, c'est le développement de l'esprit critique dès le plus jeune âge. Et pas la critique pour la critique, hein. C'est pas la critique pour aller sur Twitter et gueuler sur les uns ou sur les autres. Non, c'est une critique constructive, c'est une critique construite, c'est
Et
une.
ça, est-ce que l'entreprise, alors tout ce qui est le jeune âge, effectivement, ce n'est pas forcément le domaine d'entreprise, mais est-ce que l'entreprise peut être ce niveau pour travailler cet esprit critique? Ou est-ce que ce n'est pas son job, quoi?
Bah, ça fait partie de son job pour moi. Ça fait partie de son job. Mais la seule chose, t'embauches quelqu'un qui a 25 ans et qui n'a pas d'esprit critique, tu vas râler, quoi. C'est ça le problème. Hein, d'une certaine façon, la technologie avance plus vite que les comportement humain. Ou d'une certaine façon, on a tout un ensemble de jeunes qui ne sont plus capables d'avoir un esprit critique. Et ils le sont de moins en moins. Je suis un peu dur, hein, mais
Oui.
j'ai co-dirigé un master pendant des années. Je vois comment sont les masters aujourd'hui. J'y retrouve moins d'esprit critique. Alors, il y a tout un ensemble de raisons qui expliquent tout ça.
Donc,
Mais
qu'est-ce qu'on peut faire? Dire que c'était mieux avant?
ben, moi, ce qu'on peut faire, c'est réintroduire la pensée critique des. Je suis désolé, c'est quasiment dès la maternelle. Hein. Faut accepter. Peut-être pas la maternelle. Et faut réintroduire l'esprit critique le plus tôt possible. Un
Et
esprit
donc, pour avoir un esprit
qui
critique, il faut quand même
fonctionne.
avoir de la connaissance de l'IA. Et donc, dans un premier temps, c'est de les faire travailler sur les usages, sur les pratiques,
Je
pour
pense
après
pas.
travailler. Oui,
Je
non?
pense pas que ce soit de la connaissance de l'IA. L'esprit critique, ça sous-entend, pour moi,
Ah,
avoir.
c'était plus large.
Bien sûr, c'est la culture. Hein,
Bien sûr.
quelqu'un qui disait la culture, c'est ce qui reste quand on a tout oublié. Ben c'est ça. Hein, c'est la culture, c'est la curiosité qui est un très joli défaut. Voilà, c'est. Accepter le mais pourquoi? Voilà. Et oui, mais tu m'as répondu ça, mais pourquoi? C'est trop souvent, on a les pourquoi qui doivent s'enchaîner parce que généralement on te répond à côté tellement par le temps. Hein? Et d'une certaine façon, c'est ne pas croire aveuglément ce qui vous est présenté et ce qui nous est dit.
C'est ce qu'on voit aussi beaucoup chez les jeunes. Les jeunes, ils rentrent complètement dans les usages du numérique, mais derrière, ils gardent un esprit critique en se disant, je sais ce que je fais. Et donc, derrière, alors que les gens qui sont plus anciens rentrent soit pas du tout, soit rentrent dedans, mais finalement, sans garder cet esprit critique. Est-ce que tu ne trouves pas dans la jeunesse le fait de dire que sur les réseaux sociaux, par exemple, ils savent ce que finalement, ils savent où ils sont et ce que les gens vont dire. Ils ont cet esprit de dire, même si je dis ce qu'il faut dire, je garde cette distance avec les choses.
Je ne suis pas trop d'accord avec ce que tu dis. C'est rare pour nous.
Non, non, bien sûr. C'est parce qu'en fait, souvent,
parce
alors,
que. Non,
j'avais
je
vu
vais
des
t'expliquer
statistiques.
pourquoi. Je ne pense pas qu'ils aient véritablement un esprit critique. Ils ont parfois un esprit rebelle. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas du tout la même chose. Et un point important. S'il y a des influenceurs sur les réseaux sociaux, hein, c'est parce qu'il y a des influencés. Voilà. Et en disant ça, on a tout dit. C'est une formule à la con.
Non, pas forcément, parce que regarde, aujourd'hui, un bon formateur, c'est quelqu'un qui a du charisme, des choses comme ça, qui a de la contagion émotionnelle. Et les gens se disent, ben, finalement, j'aime ce qu'il me dit, par mimétisme, sa matière me plaît. Donc c'est
Oui,
pareil, ils sont des
éventuellement.
influenceurs.
Oui, mais généralement sur les réseaux sociaux, c'est le règne de la vitesse, de la concision, etc. On n'a pas cité tous les points où j'interviens en ce moment, mais j'anime le Mag RH, qui est une revue à destination des ressources humaines.
Tous les trimestres qu'on peut télécharger gratuitement.
Voilà. On a avec Michel Barabel, qui est le co-rédacteur en chef avec moi, puisque nous sommes deux co-rédacteurs en chef, on a une logique. On ne veut pas d'articles courts.
Très bien.
On ne veut pas d'articles courts. On ne veut pas d'articles courts pour la simple et bonne raison que si l'on a véritablement une idée, on la développe. On l'explique, on la justifie trop souvent sur les réseaux sociaux, c'est il n'y a qu'un faucon, faut qu'on faire comme ça. Il y a
Ah oui,
peu
si
de
c'était sur...
développement, peu de, etc. Et tu vois des pratiques comme ta radio participent non pas à l'influence, mais à la formation. C'est différent.
Absolument pas. On prend le temps, d'ailleurs, les articles sur la FEN, c'est 2000 mots, donc des articles longs, et c'est 50 minutes nos émissions, et donc c'est-à-dire qu'on prend le temps. Et ça permet de creuser davantage, et ça permet aux gens qui nous écoutent ou qui nous lisent, qui ont la gentillesse de ça, justement, de se faire leur idée.
Bien sûr, on n'est pas là pour les influencer, on est là pour ouvrir des portes et dire, si ça vous intéresse, vous pouvez prendre.
Oui,
Point.
exactement.
Tu n'as pas la vérité absolue, nous ne sommes pas omniscients, etc. Comme tu disais tout à l'heure, vous avez le droit de ne pas être d'accord avec toutes les conneries que j'ai pu dire. Et alors?
Exactement.
J'ai pas d'ego à défendre de ce point de vue-là, mais très honnêtement, si on n'est pas d'accord, si vous trouvez un point sur lequel j'ai dit une grosse connerie et que vous en êtes persuadé et que vous avez des faits à m'opposer, eh bien ça m'intéresse.
Ils te font grandir, absolument. C'est exactement. Très belle de la philosophie.
Voilà, c'est ça en fait.
Et donc, puisqu'on arrive à la fin, tu dirais que l'IA, pour toi, c'est ce qui va révolutionner le monde. Il y en a qui disent que c'est un phénomène anthropologique. Est-ce que c'est cette nature ou tu dis pas tant que ça, quoi, genre.
C'est peut-être un peu beaucoup, là. Je trouve que c'est peut-être un peu beaucoup. Je pense, j'espère, que l'IA qui va arriver va nous permettre de repasser du temps, de regagner du temps sur des choses beaucoup plus essentielles de la relation humaine. Alors là, c'est... Je vais faire ma Miss France.
Alors, Michel Serres disait la même chose, hein.
Voilà. Paix sur la terre aux hommes et femmes.
Exactement, absolument. Absolument.
Mais j'espère que c'est ça dans un monde qui est de plus en plus rapide, qui est parfois surtout de plus en plus violent. Il faut que l'on recrée la relation sociale. Et les collectifs de travail. Moi, il y a une chose qui me surprend, c'est comment les collectifs de travail dans nos organisations se désagrègent. Pourquoi? Parce qu'on utilise de plus en plus l'outil informatique. Sous-entendu, on lui confie toutes sortes de choses. Or, le collectif de travail, c'est ce qui nous permet d'être collectivement une entreprise. C'est ça en fait. J'ai l'habitude de dire, il faut faire extrêmement attention à ce point-là parce que je vais peut-être en choquer certains. Je dis généralement qu'il n'y a pas d'intelligence collective. Mais il y a une connerie collective. Parce que vous mettez deux mecs intelligents dans une ou un homme, une femme, ou deux femmes, etc., dans une pièce. S'ils ne sont pas d'accord, ça risque d'être un petit peu chaud. Mais vous mettez deux cons dans une pièce, là je vais mettre sur les hommes, hein, vous mettez deux cons dans une pièce, eh bien ils feront chacun leur connerie, puis ils vont se mettre à deux pour en faire une troisième.
Ah ouais, donc.
Donc pour moi, la connerie collective est productrice de conneries supplémentaires. Allez, plus sérieusement, soyons honnêtes. Je pense que d'une certaine façon, nous avons la nécessité véritablement de recréer des collectifs de travail, de recréer l'habitude. Alors attention, hein, je ne veux pas dire qu'il faut multiplier les réunions à la con et des choses comme ça, hein. Mais
Mais retrouver du sens, et ça, c'est ce que demandent les gens. C'est-à-dire, ils se disent, ils sont prêts à donner beaucoup, à condition qu'on ne leur réinvente une histoire dans laquelle ils puissent adhérer. L'éthique, on s'y retrouve.
Oui, tout à fait. Ce sont des points où la notion de collectif de travail a la possibilité de reprendre de la vigueur si on supprime tout un ensemble de temps, je ne vais pas dire improductif, mais de temps à faible valeur ajoutée, du traitement de données, machin, etc. De se réinterroger sur. On parlait tout à l'heure de raffinage, hein, pour créer des éléments de raffinage pour la compréhension des situations, pour l'identification et la mise en place de nouvelles pratiques et des choses comme ça. Ça, c'est important pour moi.
Exactement. Et ce temps, Rosa Hartmut disait que le temps s'accélère, mais le temps est une donnée sociale, et c'est ce que la société veut en faire de ce temps disponible que l'IA nous dégage pour pouvoir faire quelque chose, de des belles choses, par exemple.
Voilà, et je reboucle sur ce que je disais tout à l'heure. Tant qu'on considérera que l'IA, c'est faire plus de la même chose avec moins, on passera à côté de ce genre d'enjeu.
Exactement. Et pourtant, c'est le cœur du collectif. Tu as complètement raison. Bravo, François. François Gueuse,
Voilà.
si on veut te joindre, comment est-ce qu'on fait? C'est quoi ton média de prédilection?
LinkedIn, c'est pas mal. Ça marche bien. Et puis sinon, c'est f.geuze, Geuze, arrobase e-rh.org, e-rh.org, qui est le site qui vous permet de télécharger l'ensemble des numéros du mag RH.
Ah ben très bien. Et ceux qui ne connaissent pas, allez-y, c'est vraiment extraordinaire. C'est une myriade de personnes qui s'expriment sur des sujets variés. Il y a un dossier thématique, il y a plein de rubriques, rentrez dedans. Combien de téléchargements par dossier?
On a perdu le compte, pardon, on ne compte pas en fait, véritablement. Mais généralement, les dossiers sont téléchargés en moyenne près de 50 000 fois.
C'est énorme, quoi. Surtout quand on compare avec les autres, c'est énorme. Et ça en vaut la peine. N'hésitez pas à le faire. Et c'est gratuit. Donc, profitez-en. C'est rare quand on vous offre des choses. Donc, c'est avec plaisir. Merci, François.
De rien, un grand merci.
À très bientôt à tous.
À bientôt.